RCF.
RCF, Fabrice Gironet.
Il est 18h10 et vous êtes sur RCF à Reims-Ardennes le 18-19. C'est avec Jean-Pierre Benoît.
Bonsoir, et de 18h10 à 19h, c'est ce magazine que nous vous présentons. Il est en léger différé ce soir, il est en direct toute la semaine. C'est l'occasion pour nous de revenir sur l'actualité d'aujourd'hui, mais aussi de prévoir un peu l'actualité du week-end. Il faut savoir dans la vie diocésaine que c'est aujourd'hui que vient de s'ouvrir à Lourdes l'Assemblée plénière des évêques de France, présidée, vous le savez, par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims. Monseigneur Étienne Véteux participe, bien évidemment, à cette assemblée. C'est pour lui une première. D'ailleurs, il y reviendra tout à l'heure, puisqu'on le retrouvera comme tous les vendredis. On retrouvera également dans notre édition le professeur Jacques Cohen, qui revient dans Questions d'actualité, sur la voie des sacres, point d'interrogation, et la cathédrale. Cathédrale, est-ce que c'est la cathédrale des sacres ou est-ce que c'est une cathédrale universelle? On en saura plus avec lui. On écoutera également des mères, et ce soir, c'est la mère de Murphy, Madame Marie-Rose, qui sera avec nous. Donc, Monseigneur Véteux, on l'a vu, juste après quelques titres du journal. Et puis, nous retrouverons Jacques Yves, que nous n'avons pas entendu hier. Jacques Yves, qui est libraire, qui a travaillé de nombreuses années à la librairie Guerlain, à Reims, qui est actuellement à Bordeaux, où il s'est retiré il y a quelques années. Il revient à Reims et à Jonchy-sur-Vel ces tout prochains jours pour la dédicace de son dernier livre, Que lentement passent les heures. D'ailleurs, on le retrouvera plus complètement la semaine prochaine. Tout de suite, sans aucune hésitation, on retrouve notre chroniqueur du vendredi, le professeur Jacques Cohen. Jacques Cohen, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, question d'actualité, il y a un sujet dont on parle beaucoup sur RCF, c'est évidemment Reims, ville des sacres, avec évidemment, on parle beaucoup d'abord, Jacques Cohen, du musée des sacres. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fameux musée des sacres ?
Je pense que c'est une erreur de mettre en tête d'affiche le thème des sacres à Reims, car nous avons un atout universel qui est la cathédrale, mais que les sacres sont un sujet très marginal et très daté. Le musée du Tau, le palais du Tau, il doit devenir le musée de la cathédrale, parce que la cathédrale a une situation universelle. Elle renseigne de façon atemporelle sur les ambitions et les aspirations des hommes qui l'ont construite. On peut la comparer à Angkor, qui est de la même période. Ce n'est pas la peine d'être un spécialiste du bouddhisme, du petit et du grand véhicule pour apprécier Angkor. Eh bien, pour la cathédrale, c'est pareil. Elle parle à tous les hommes, quelles que soient leurs croyances, et même quand ils n'en ont pas. Alors, les sacres, c'est complètement le contraire. Il faut bien se rendre compte que c'est une légende miraculeuse, inventée par Hincmar, l'évêque, au IXe siècle, pour que les sacres aient toujours lieu à Reims. C'est lui le bienfaiteur de l'office du tourisme, Hincmar. Il a inventé qu'une colombe, donc l'Esprit Saint, quasiment, est descendu avec une huile sacrée, une fiole, que la colombe est allée déposer dans le tombeau de Saint Remi, et qu'il en a su par là qu'il fallait que cette huile sacrée, ce saint crème, soit utilisée pour oindre le roi et lui donner ainsi une essence divine.
Je vous interromps 30 secondes, Jacques Cohen. Vous allez faire hurler un certain nombre d'historiens qui vraiment considèrent que c'est un événement majeur et que les sacres, c'est très 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 important. Et pour vous, vous dites que dans l'histoire d'une cathédrale qui a une vocation universelle, le sacre n'est qu'un petit bout de l'histoire ?
Totalement, et en plus c'est un petit bout qui est très daté, parce que les sacres, c'est déjà, comme je vous ai dit, quelque chose qui donnait une onction divine au pouvoir royal, c'est l'ingérence divine dans le temporel ou vice-versa, avec les nostalgiques de la royauté et de la France fille aînée de l'Église, qui seront l'essentiel du public intéressé par ça, pour les autres Français et pour le monde entier. Les sacres, c'est une culture ésotérique dont la dernière ressuscée, si je puis dire, a eu lieu il y a près de deux siècles, et était en 1825. Elle a déjà été très très palichonne, puisqu'on a déjà fait un peu l'impasse sur le toucher des écrouelles, parce que le roi devenu divin devait faire des miracles, en touchant les écrouelles qui devaient guérir. Alors ça, les écrouènes, ce sont des fistules tuberculeuses cervicales qui guérissent effectivement quand on donne à manger aux gens et qui traînent quand les gens sont en malnutrition chronique. Donc c'est pour ça que c'était un miracle relativement facile à organiser en faisant toucher au roi, au nouveau roi, les écrouelles des pauvres mal nourris et en les mettant à Saint-Marcoux pour quelques semaines pour qu'ils se retapent correctement. Bon, ça c'était une petite parenthèse médicale, n'est-ce pas? Donc, les sacres sont un thème marginal et qui n'a pas une audience universelle. C'est pas du tout l'impact qu'a notre cathédrale. Le thème général des sacres, en plus, pris comme thème général, est complètement marginal et donnera à Reims une image passéiste et rétrograde. Quand on parle par exemple de la voie des sacres, c'est justement quelque chose de pitoyable, parce que cette voie des sacres, elle a évolué avec le temps, et ce n'est pas le quartier le plus spectaculaire, si on peut dire, de la ville.
Mais vous n'êtes pas sans savoir, Jacques Cohen, je vous interromps, qu'ici à Reims, il y a une mobilisation tous azimuts autour de cette voie des sacres, qu'il va y avoir prochainement, et nous-mêmes en faisons la promotion de conférences autour de la voie des sacres. Nous avons, on va le citer, Jean-Marie Beaupuis qui intervient pour soutenir cette... Il y a quand même des gens qui promeuvent, et peut-être à juste titre, Jacques Cohen. Vous leur dites, non, vous êtes à côté de la plaque.
Que l'on fasse quelques cavalcades régulièrement de Saint-Remy à la cathédrale, c'est tout à fait souhaitable. Mais de saboter la circulation automobile et les flux pour créer une espèce de promenade permanente sur une voie qui, architecturalement, est surtout bordée de maisons assez minables, dont les rez-de-chaussée sont tous, quasiment tous, défigurés par des magasins, contemporains, eh bien, si vous la prenez depuis le début, la voie des sacres, vous avez place Saint-Timothée, trois maisons médiévales, effectivement, qui sont les seules survivantes. Vous êtes déjà parti de Saint-Remy, vous avez un espèce d'univers minéral et géométrique assez raté, parce que transformer des places, c'est bien gentil, mais ça implique de savoir d'abord ce qu'il y a autour, parce qu'une place, elle est définie par ce qu'il y a autour, pas par ce qu'il y a au milieu. Au milieu, c'est un trou. Et donc, le fait d'avoir refait le parvis de Saint-Remy n'a pas à ressusciter des choses autour. Donc elle est toujours aussi creuse, si je puis dire. Donc depuis la place Saint-Timothée, vous descendez dans le seul segment qui va être un segment besogneux, industrieux, artisanal, avec quelques boutiques. Il y a même un horloger, des choses comme ça. Eh bien tout ça, ça va être balayé comme avenue de l'An par le sabotage de la circulation. De plus, l'architecture de ces maisons n'a pas grand intérêt. Vous avez le rectorat, qui n'est pas non plus un bâtiment extraordinaire. Vous avez le collège des jésuites, mais malheureusement, on ne peut pas y entrer. On n'a qu'une façade aveugle sur la voie des sacres, n'est-ce pas? Et puis au-delà, tout ça va continuer. Il y a le conservatoire, qui est pas mal, mais il y a très très peu de maisons intéressantes, sauf celle de Calas, mais les minuscules. Le mur de Saint-Sixte, eh bien, il ouvre, on peut l'abattre et ouvrir sur un jardin, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus. La place des Six Cadrans, elle est très des Loges Coco, elle est très très dévalorisée actuellement, et pas par l'œuvre d'art qu'on a laissé rouiller, et qu'on va avoir du mal à remplacer. Donc en fait, cette voie avec des sens uniques qui vont l'un vers l'autre et avec une voie extrêmement étroite et restreinte, ça ne sera pas une voie royale, pour parler d'Encore et de Malraux. Ça sera une transformation paysagère à la mode, c'est-à-dire et surtout en herbe folle, pour complaire à la mode de réserver le centre-ville à ceux qui y habitent, car les commerces qui s'y trouvent, voilà leur arrêt de mort.
En prenant cette position, professeur Jacques Cohen, vous avez conscience que vous allez heurter, toute une démarche actuellement qui est faite pour promouvoir justement cette voie des sacres.
Mais je vois de la part de la municipalité une constance dans l'erreur. Il y a déjà eu la candidature de Reims pour l'exposition pour la ville européenne de la culture, qui était partie sur une base complètement erroné, qui s'est fait retoquer d'ailleurs, le beatbook a pris un E, Mais il y a là-dessus une constance dans l'erreur, et l'erreur, c'est de vouloir réserver le centre-ville à ses habitants en coupant systématiquement tout ce qui fait qu'on puisse y entrer. La démolition du pont Charles de Gaulle va suivre, et on aura une ville réservée aux bobos, un peu comme les condominiums brésiliens, toutes les zones où il y a d'un côté des ghettos de pauvres, de l'autre des ghettos de riches. Et là, on aura donc une ville avec un peu de verdure pour les bobos du centre-ville et les maisons de retraite de leurs parents. C'est une ambition qui me paraît pas tout à fait celle qu'on devrait avoir pour Reims. Ça retrouve d'ailleurs des choses plus anciennes. Le maire Brive, dans les années 50, s'était beaucoup battu lui aussi contre le développement de la ville, et finalement Jean Tétinger l'avait emporté et avait commencé un développement important. Développement qui a été coupé à la racine par justement des gens qui voulaient pouvoir dormir à Reims et que Reims ne se développe pas.
On peut dire, Jacques Cohen, pour terminer, qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet, mais votre prise de position est importante parce que ce que vous mettez en avant finalement, c'est que la cathédrale est un élément universel et que certes, c'est quand même... Et je reviens, ce n'est pas une provocation, Jacques Cohen, mais c'est quand même la cathédrale des sacres. C'est quand même une particularité de Reims. Mais vous dites, il ne faut pas s'arrêter à cette particularité. Reims, c'est bien au-delà, c'est universel.
C'est universel parce que la beauté de la cathédrale, témoignant des ambitions et du savoir-faire des hommes qui l'ont construite, parle à tout le monde sur la planète. Et de même que leurs aspirations, parce qu'il y a des sourires, dans un monde qui était un monde d'horreur, un monde de guerre, bien pire que le nôtre, et pourtant, eh bien dans ce monde-là, la cathédrale représentait l'aspiration à la paix et au bonheur que tous les hommes ont, un espèce d'îlot, un havre, dans un monde, un refuge, dans un monde qui était affreux dans sa réalité quotidienne. Eh bien, ça, tout le monde le perçoit. De même qu'on perçoit le sourire d'Angkor, comme le sourire de Reims. Et ça, c'est un atout majeur. Les sacres ne sont qu'une petite chose marginale et nous n'avons certainement pas intérêt à nous complaire et nous restreindre à un espèce de folklore de miracle douteux. Et moi, je maintiens la position du conventionnel Rull, qui, après avoir brisé la fiole sur les marches de la statue de Louis XV, appelée à l'époque Louis le Fainéant, a dit, en envoyant les débris à la Convention, « Le hochet sacré des sceaux n'existe plus ».
Merci Jacques Cohen, une prise de position qui fera sans doute réagir sur notre antenne. En tout cas, merci Jacques Cohen d'avoir été avec nous. Et puis si vous le voulez bien, on se retrouve vendredi prochain pour ouvrir avec vous une nouvelle page de questions d'actualité. Bonne semaine, à bientôt.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Vous le savez, tous les jours, à midi et à 18h20, sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes, pour nous rendre plus proches de vous, plus proches de la vie que vous partagez dans vos communes, nous allons au-devant des maires que vous connaissez dans votre région, dans les Ardennes ou dans la Marne. Ce sera le cas lundi prochain, le 6 novembre, à midi et à 18h20, avec Marcel Bensivengo, qui est maire d'Inchères, dans le département de la Marne. Et c'est le cas ce soir avec Madame Marie-Rose, elle est maire de Merfi. Madame Marie-Rose, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous d'aller à la découverte des maires. Alors on peut dire que vous êtes maire depuis peu de temps finalement.
Oui, en fait réellement 3 ans puisque j'ai été élue en juillet 2020 au deuxième tour des élections, des dernières élections.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre commune ? Alors, Merfi, c'est combien d'habitants aujourd'hui ?
Alors, Merfi, c'est 620 habitants. Nous sommes une commune rurale, je dirais, périurbaine, puisque dans le Grand Reims, c'est tout près de Reims, malgré tout. Nous avons beaucoup de viticulteurs sur le secteur. Nous avons également une zone Natura 2000 et les Sablières avec une jolie...
Tous ceux les gens de Reims connaissent bien Merfi.
Bien sûr, bien sûr.
Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un phénomène, je ne sais pas si vous l'analysez, vous en tant que maire, c'est que peut-être à la suite du Covid, il y a quand même beaucoup de gens qui habitent en Reims, souhaitent aller dans des dans des villages environnants pour profiter quand même de la beauté des villages. C'est un beau village, Merfi.
Oui, bien sûr, c'est un beau village, c'est mon village.
Et donc,
mais c'est vrai que les gens recherchent la campagne, surtout depuis le Covid. Nous avons peu de maisons à vendre et beaucoup de demandes. Et c'est vrai que quand une maison est en vente sur le village, ça part très vite.
Alors, il faut dire que vous avez été conseillère municipale. Et puis, tout d'un coup, c'est un peu les circonstances qui vous ont dit, bah, à un moment donné, le maire arrête et puis moi, je vais reprendre le flambeau.
Oui, en fait, j'étais conseillère municipale pendant 6 ans, un mandat. Je souhaitais m'impliquer un peu plus en me présentant en tant qu'adjointe. Et le maire ne se représentant pas, Monsieur Verdebout, et du coup, personne ne voulait prendre sa place et tout le monde m'a un petit peu poussé pour me présenter en tant que maire.
Alors c'est vrai que on entend aussi, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des maires qui ne veulent plus y aller parce qu'ils disent on a énormément de travail, de responsabilité. Il faut dire que le maire est très souvent sollicité. Vous, en tant que maire, parfois, vous devez répondre à des tas de questions, des tas de gens qui vous, peut-être même vous interpellent dans la rue, non?
Oui, bien sûr. Quand on se promène dans le village, on est souvent interrogé. Mais bon, ça fait partie du job, je dirais. Donc, il n'y a pas de souci.
Mais vous aimez ce contact
bien
avec
sûr,
les personnes?
Bien sûr, bien sûr. Il faut aimer le contact avec les personnes et pas hésiter à parler, à dialoguer avec les gens. C'est vrai qu'on est beaucoup sollicité en tant que maire. On ne se rend pas compte du travail au quotidien d'un maire. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, de responsabilités, mais c'est très intéressant.
Alors, il faut dire aussi que depuis quelques années, il y a eu les communautés de communes et maintenant, il y a forcément le Grand Reims. Alors là, il y a plusieurs versions, plusieurs avis. Tout le monde n'a pas le même avis, mais beaucoup de gens sont assez d'accord pour dire que le maire garde quand même un certain nombre de responsabilités. Est-ce que le maire est encore le patron chez lui, d'une certaine façon? Oui et non.
Oui, oui, quand même. C'est le maire, ça reste l'élu du village. Il représente la population et il a quand même son mot à dire sur beaucoup de choses. Maintenant, être dans le Grand Reims, ça porte aussi des avantages et des inconvénients, forcément, mais on peut pas avoir les deux. Et enfin, le beurre et l'argent du beurre. Et moi, je l'ai pas connu avant le Grand Reims, vraiment, donc je peux pas trop me prononcer. Mais pour moi, c'est plutôt positif.
Alors, quand vous rencontrez les personnes, les habitantes, les habitants de Merfi, quelles sont les questions qu'ils vous demandent? Est-ce que parfois c'est des questions personnelles et vous réglez tel ou tel litige, telle ou telle question? Ou alors, de façon générale, ils disent bah, on aimerait mieux qu'il n'y ait plus de verdure, la voirie améliorée.
Oui, en fait, j'ai été surprise en début de mandat par le fait que beaucoup de gens ont des problèmes de voisinage et en fait des guerres de voisinage.
Vous n'avez pas encore eu, comme certains maires, le problème d'un coq qui réveillait tout le monde à 5h du matin?
Non, mais c'est pas loin.
C'est pas loin.
C'est pas loin. Donc c'est vrai que.
Mais là, vous avez, j'allais dire, je me permets, hein, Marie-Rose, que là, vous avez quand même un devoir de discrétion parce que parfois, on est ici sur RCF, je ne dis pas que c'est un confessionnal, mais vous avez des gens qui peuvent parler de leur vie personnelle, de leur vie privée. Vous êtes au courant de ce qui se passe ici ou là. Et vous devez quand même respecter un petit peu cette discrétion.
Ah, bien sûr.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se confient quand ils voient le maire, pour eux, parfois, c'est un confident.
Oui. Oui, oui, ça peut être un confident. En fait, le maire a plein de casquettes. Et c'est ça qui est intéressant dans ce mandat, c'est que c'est très varié. Et moi, j'aime pas la morosité, donc du coup, ça me plaît parce que c'est très varié, qu'on fait plein de choses différentes, surtout dans une petite commune, parce que voilà, j'ai été privée d'employé communal pendant un temps, donc je fais l'employé communal avec mes adjoints, je fais du bureau, je fais des réunions au Grand Reims, c'est très varié.
Dans les petites structures, et on sait ce que c'est à RCF, dans les radios, chacun qui travaille, il a son travail. Mais en fait, je ne dis pas qu'il doit tout faire, mais enfin, on doit quand même...
Il faut être polyvalent.
Polyvalent. Évidemment, dans cette vie de maire, il y a aussi une vie professionnelle, vous aviez travaillé, etc. Une vie familiale, c'est pas toujours simple de conjuguer les deux.
Non, mais pour moi, c'est relativement simple.
Vous êtes bien organisée, peut-être.
Mon mari est élu aussi de son côté, donc il comprend mes contraintes et mes obligations, et moi, je comprends les siennes. Donc,
c'est-à-dire que votre mari est très pris aussi.
Tout à fait.
Donc, de toute façon, et puis il connaît bien le Grand Reims, oui. Puisqu'il en est l'un des vice-présidents. J'ai envie, pour conclure, parce que c'est pratiquement terminé, hein, Marie-Rose, on resterait des heures avec vous pour connaître mieux Mercy. Mais est-ce que vous êtes une mère heureuse, finalement,
oui.
Malgré tous les problèmes, les travers?
Bien sûr, bien sûr. Mon père a été maire, mon frère a été adjoint, ma sœur a fait partie du conseil municipal. Je pense qu'on a ça dans l'ADN chez nous et donc ça me fait plaisir d'être élue dans ma commune.
Une mère heureuse, Marie-Rose, mère de Murphy. Merci en tout cas, Madame Marie-Rose, d'avoir été avec nous.
Merci Jean-Pierre.
Et puis, on aura l'occasion, bien sûr, de reparler de Murphy, une très très belle commune, avec un très beau point de vue sur Reims.
Tout
hein,
à fait.
On voit les vignes, etc. Pendant les vendanges, ça va beaucoup bouger.
Oui.
Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très très belle journée.
Merci et bonne journée à vous.
Merci, à bientôt. Au revoir. La semaine prochaine, on retrouvera le maire d'Inchères, la maire de Pomacle, le maire de Gendin, Monsieur Garcia, et puis beaucoup d'autres maires. On les retrouvera tout au cours de cette semaine.
Le 18-19 sur RCF.
On disait tout à l'heure, il y aura un peu moins de vent encore aujourd'hui, mais il faut faire très très attention parce que on annonce pour demain, on le reverra dans une page météo, on annonce quand même une petite agitation, dit Météo France. Ça veut dire qu'il y a eu un peu de calme aujourd'hui, mais un petit peu d'agitation demain, mais rien à voir avec les tempêtes que nous pouvons connaître ou rencontrer, en particulier en Bretagne, même si 4600 foyers ont été touchés par la panne d'électricité jeudi soir dans le quartier Saint-Thomas. Thomas à Reims. Mais il est maintenant pratiquement 18h30, c'est l'heure de retrouver un journal local en trois titres. « 4600 foyers touchés par la panne d'électricité, c'était hier soir dans le quartier Saint-Thomas de Reims. Le courant a sauté à la suite d'un incident technique. Cette panne d'ailleurs n'est pas due à la tempête Ciaran, mais on y reviendra dans quelques instants. » L'autre titre, c'est une enquête qui a été engagée par le journal d'Union, à savoir est-ce que vous acceptez des trottinettes ou est-ce que vous acceptez des vélos en centre-ville, dans les rues piétonnes. La réponse des lecteurs de l'Union est non à 72%. On y revient. Et puis en football, eh bien, le stade de Reims s'en comporte bien, mais surtout son entraîneur qui est un peu, j'allais dire, encouragé par tous ceux qui aiment le foot à Reims. Reims qui va rencontrer Nantes, ce sera dimanche à la Beaujoire, et puis Reims qui rencontrera le Paris Saint-Germain, ce sera le 11 novembre prochain.
RCF, le journal, Jean-Pierre Benoît.
Avant de développer tous ces titres, je vous rappelle que lundi, le 6 novembre, à Châlons-en-Champagne, à l'hôtel du département, aura lieu l'élection du président du conseil départemental de la Marne. C'est un duel entre Jean-Marc Rose et Monsieur Valentin, qui font partie de la même formation politique. On aura le résultat, bien sûr, dès lundi, et on en parlera, bien entendu, dans le 18-19. La tempête, eh bien, vous le savez, la tempête Ciaran a fait d'ailleurs deux victimes hier en France, dont une dans le département de l'Aisne. De très nombreux foyers ont été privés d'électricité en raison de la violence des vents. Hier soir, près de 1000 d'entre eux étaient encore sans alimentation dans le département des Ardennes, mais la situation s'est améliorée au fil du temps. Il faut dire que les vents ont quand même beaucoup diminué, même si ici ou là, cela dépend bien sûr des villages, et en particulier, on avait noté hier, la situation à Signy-l'Abbaye. La situation s'améliore, et Météo France annonce une petite agitation demain, avec quand même peut-être un peu de pluie, on y reviendra dans la page météo. Vélos et trottinettes chassés du centre de Reims, c'était une interdiction qui est plébiscitée. C'est un sondage qui a été lancé par le journal L'Union à l'occasion d'un article sur le ras-le-bol de commerçants rémois face à l'irruption de deux roues dans leur boutique. C'est ainsi que s'exprime le quotidien L'Union. La rédaction de L'Union a donc lancé un questionnaire sur la nécessité d'interdire les zones piétonnes aux vélos et trottinettes. Résultat, tout comme à Nice ou à Agen, la ville de Reims doit-elle interdire les zones piétonnes ou trottinettes? La question a été posée et les résultats sont sans équivoque. Plus de 70% des personnes ne souhaitent plus voir les trottinettes et les vélos sur les rues piétonnes. On aura l'occasion bien sûr d'interroger sans doute un jour le maire de Reims, Arnaud Robinet. La municipalité pour l'instant a d'ores et déjà exclu le recours à une telle mesure, c'est-à-dire celle de l'interdiction. Mais sur les 400 participants au questionnaire, les trois quarts souhaitent en effet que les zones piétonnes soient désertées par les deux roues. Et puis une page sport, comme on le fait souvent le week-end. Il faut dire qu'un an après son arrivée au stade de Reims, c'est un bilan plein d'éloges pour Will Steele, l'entraîneur de Reims. Il a été intronisé il y a près de 12 mois sur le banc du stade de Reims. Il a donné une nouvelle impulsion à l'équipe champenoise, qui est actuellement cinquième au classement de la Ligue 1. Il faut rappeler qu'après le succès face à Lorient 1-0, dimanche le 5 novembre, Reims va rencontrer Nantes. Et le samedi suivant, le jour du 11 novembre, c'est à Auguste Delaune, Reims va rencontrer le Paris Saint-Germain. On aura l'occasion de faire le point et tous ces résultats, ce sera lundi prochain. Du côté de la météo, on le disait tout à l'heure, eh bien demain le temps sera sec, mais il peut y avoir quand même quelques pluies, annonce Météo France. C'est un peu des annonces météo un peu normandes. D'un côté, le ciel est encombré de bancs nuageux, mais il peut y avoir des petites trouées, une éclaircie possible par moment. Les températures attendues dans le département des Ardennes, l'ordre de 8 degrés. Le matin, 7 degrés également dans le département de la Marne, pour atteindre 13 degrés l'après-midi dans la Marne et 11 degrés l'après-midi dans les Ardennes. On peut dire un peu familièrement que c'est un peu plus frisqué. On achève ce journal en disant qu'il faut rester à l'écoute, puisque dans quelques instants, le magazine continue.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
En ce moment même, à Lourdes, vient de démarrer l'assemblée plénière des évêques de France, à laquelle bien sûr participe son président, c'est une évidence, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France, qui était parti d'ailleurs une journée à l'avance. Et Monseigneur Étienne Véteux, c'est en quelque sorte le baptême du feu, si on peut s'exprimer ainsi, puisque c'est la première fois que l'évêque auxiliaire du diocèse de Reims-Ardennes participe à ce grand rendez-vous d'automne. Vous savez qu'il y en a deux par an, un au moment de Pâques et l'autre au moment de la Toussaint. L'occasion pour nous ce matin en direct d'interroger Mgr Étienne Véteux, il était à Lourdes. Mgr Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde.
Merci Monseigneur, vous êtes en direct de Lourdes, où vous allez bien sûr participer à l'assemblée plénière des évêques de France qui commence aujourd'hui. On vient de l'entendre sur l'antenne de RCF. Alors avant d'aborder cette conférence, on va peut-être parler, Monseigneur, des activités récentes dans le diocèse, et en particulier vous avez été l'artisan des confirmations. C'était, je crois, à Vermerieville, Monseigneur.
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs confirmations. Et moi, j'ai eu la chance d'aller à Vermerieville, dans la vallée de la Suippe, pour le samedi dernier. C'est toujours une grande joie. Et c'était une grande joie cette fois-ci aussi, parce que quelques semaines avant, j'avais rencontré les jeunes. Un beau moment de partage où ils m'expliquaient comment ils vivaient la foi à l'école, les difficultés qu'ils avaient, les questions qu'ils avaient pour leur avenir. On a abordé le thème de la prière, et j'ai vu que beaucoup de ces jeunes avaient une vraie vie de prière ou essayaient de prier. En fait, ça fait plus d'un an qu'ils sont en préparation. Là aussi, c'est quelque chose de on voit que c'est très sérieux. Et c'est très encourageant de voir des jeunes qui s'engagent de cette manière-là. Le mot confirmer veut dire ratifier quelque chose. C'est en même littéralement, étymologiquement, ça veut dire signer quelque chose. On signe ce qu'on a déjà vécu et on veut le rendre solide. Et du coup, je voyais des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans qui voulaient rendre solide leur parcours de foi.
Évidemment, Monseigneur, c'est aussi une manière pour vous, au quotidien, j'allais dire, d'aller sur le terrain, dans le diocèse. Ce contact est important avec les jeunes, avec les espaces missionnaires aussi, en même temps, d'une certaine façon.
C'est vraiment une très bonne occasion. J'avais pu faire des confirmations un peu plus tôt, donc il y a quelques semaines, dans les Ardennes Sud, où j'étais impressionné de voir que cet automne, il y a 136 confirmants dans les Ardennes Sud. La semaine d'avant, j'avais aussi été dans le Nord, de nouveau à Saint-Valfroid. Donc peu à peu, je suis en train de découvrir ce très beau diocèse, et ce diocèse avec beaucoup de diversité.
Monseigneur, vous connaissez bien Rome, vous y allez souvent, et s'est déroulé tout récemment, et vient de s'achever, le synode sur l'avenir de l'Église, ce synode qu'on appelait synode sur la synodalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce synode qui vient de s'achever, Monseigneur ?
Donc le synode, effectivement, c'est peut-être un moment historique. Ça fait un mois que plus de 350 personnes sont rassemblées à Rome, après une longue préparation au niveau local. Une grande nouveauté, c'est que le synode a été institué pour être synode des évêques, alors que cette fois-ci, il y avait effectivement plus de 300 évêques, mais aussi 54, je crois, en tout cas plus d'une cinquantaine de personnes de tout genre qui n'étaient pas des évêques et qui avaient le droit de vote. Donc l'idée de fond, je crois que c'est vraiment la grande nouveauté de ce synode-là, parce que d'habitude un synode c'est sur un thème ou sur une région. Il y a eu synode sur l'Amazonie par exemple, ou il y a eu synode sur les prêtres ou sur d'autres aspects de la vie de l'Église, sur les jeunes. Là, le synode était sur la synodalité, donc sur comment faire chemin ensemble. L'idée est pas, le plus important n'était pas les thèmes qui ont été abordés, même si je suis sûr qu'il y aura de très belles réalisations, mais c'est de comment on vit l'Église ensemble, comment on travaille ensemble, comment on prie ensemble. Au fond, ce qui compte là, c'est une profonde transformation de la manière de faire Église, de prendre des décisions, et qui devrait rejaillir sur toutes les Églises locales.
On aura certainement l'occasion d'en reparler, Monseigneur, parce que il y aura l'an prochain, il va se poursuivre, la réflexion va se poursuivre.
Oui, c'est aussi une particularité de ce synode, c'est que d'habitude les synodes se font en une fois, tandis que là il y a eu une longue étape de préparation, cette session d'octobre 2023, et il y aura de nouveau à l'automne 24 une autre session, donc avec tout le travail entre les deux de préparation. Alors c'est vrai, on a beaucoup parlé du synode en disant c'est une forme de démocratisation de l'Église. Certains le disaient de manière positive, d'autres le disaient de manière négative en disant il ne s'agit pas de faire une démocratie, c'est Dieu qui doit être à l'œuvre. Mais je crois que justement très profondément, on a ici l'intuition qu'il ne s'agit pas d'un parlement, mais que plus on se met à l'écoute les uns des autres, plus on se met à l'écoute de l'Esprit-Saint. Et en fait, c'est l'Esprit-Saint qui guide l'Église. Donc, quelle est la meilleure manière d'écouter l'Esprit-Saint ? C'est de s'écouter les uns les autres, de prier ensemble, de partager ensemble, et puis d'écouter la voix de ceux qu'on n'écoute pas ou qui ont du mal à être entendus, les plus pauvres. Et donc, c'est l'objectif de ce synode, c'est que l'Église soit toujours plus elle-même.
Monseigneur, vous êtes actuellement avec nous en direct de Lourdes, où va démarrer aujourd'hui l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Alors une question, il y a certains auditeurs qui nous le posent, à quoi sert une telle Assemblée, Monseigneur, Assemblée des évêques de France ?
Ah, très bonne question. Il se trouve que c'est la première fois que j'y participe, puisque j'ai été ordonné il y a quelques semaines. Donc je vais moi-même découvrir le fonctionnement, découvrir ce qu'on y fait. Mais c'est vrai que bon, je suis arrivé hier soir, il y a déjà eu un premier dîner ensemble, et j'ai été très frappé par la fraternité. Les évêques, en général, sont des personnes sérieuses. Les évêques sont des personnes qui portent souvent des poids, des responsabilités difficiles. Et là, je me suis retrouvé au milieu d'un collège, d'un groupe de personnes qui me considéraient comme un frère. Il y avait énormément de joie. Un accueil très profond. vraiment très profond. Et je pense que finalement, le premier objectif de ce synode, c'est de créer la fraternité entre les évêques, de faire un réseau où ils savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres, et dans l'amitié, et puis peut-être plus profondément, ou plus précisément, dans des conseils à demander, à se prodiguer, des expériences à partager, pour mieux faire mieux exercer leur mission, leur charge. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, nous allons commencer par un long moment de prière, un temps spirituel qui nous permet de nous mettre à l'écoute de Dieu. Et je pense que pour chacun d'entre nous qui venons d'activités assez intenses, il est bon de pas simplement avoir les temps de prière habituels que nous avons, mais de plonger davantage dans la prière.
Quelques thèmes que vous alliez aborder, Monseigneur ?
Alors, les thèmes vont structurer effectivement la séance. Il y en a beaucoup. Je vois que c'est une assemblée qui travaille. On a reçu des centaines et des centaines de pages de documents préparatoires à lire. Peut-être deux, trois thèmes que je retiens en particulier. La mission, je pense que ce sera un des thèmes principaux. C'est-à-dire, dans le monde d'aujourd'hui qui est déchristianisé pour une grande partie, comment annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile ? Quelle est la bonne manière d'annoncer aujourd'hui ? C'est vrai que quelque chose de peut-être nouveau, ce n'est pas la première fois que l'Église se retrouve en situation de devoir faire une première annonce du Christ, mais ce qui est peut-être nouveau, c'est que beaucoup de gens n'ont aucun rapport avec la religion, quelle qu'elle soit, peut-être même pas la conscience qu'ils ont un désir de Dieu.
Donc, il nous reste très peu de temps, Monseigneur.
Comment réveiller ce désir de Dieu ?
Un autre thème, très vite.
Alors peut-être deux autres thèmes, sans entrer dans les détails. La question de la relation à l'islam, comment c'est une présence grandissante en France, et comment trouver l'équilibre entre annoncer le Christ et dialoguer. Et puis peut-être la place aussi des laïcs, ou les ministères laïcs, comment former des laïcs et quelle mission leur confier.
Merci, Monseigneur Étienne Vetteux, en direct de Lourdes. Et puis, vous avez aussi, vous connaissez très bien le président, quand même, de cette assemblée plénière.
Tout à fait. Alors, c'est une grande chance de pouvoir travailler de près avec lui et de vivre dans le même archevêché que lui. Il porte cette assemblée. Et je pense qu'il donne vraiment, avec le reste du Conseil permanent, une très très belle orientation à l'Assemblée.
On vous souhaite bien sûr une très belle journée, Monseigneur Étienne Vetteux, puis une très belle semaine, puisque ça va durer jusqu'au 8 novembre, et on aura sans doute l'occasion de vous retrouver. À très très bientôt, Monseigneur.
Priez pour nous.
Merci, au revoir, Monseigneur.
Au revoir.
Très bonne journée. La semaine prochaine, on retrouvera en direct, en studio, Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort. Et puis, peut-être même qu'on fera le point en cours de route avec l'archevêque de Reims pour faire le bilan, j'allais dire, à mi-course, si on pourrait dire ainsi, de l'Assemblée plénière des évêques de France pour bien connaître les thèmes abordés. Monseigneur Vieteux vient de les rappeler, autour de la mission, bien évidemment, mais il y a aussi d'autres thèmes qui vont être débattus au fil des journées.
Le 18-19 sur RCF.
Autre invité ce soir dans ce magazine, c'est Jacques Ivès. On l'a présenté déjà dans notre dernière édition. On le retrouvera la semaine prochaine. Jacques Ivès est certainement très connu d'un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs, en particulier de Reims, et des clients de la librairie Guerlain-Martin. Il a travaillé de nombreuses années dans cette librairie de la place d'Erlon. Il est actuellement à Bordeaux, où il s'est retiré il y a quelques années. Il revient à Reims à la mi-novembre et à Jonchery-sur-Vel, les tout prochains jours également, pour la dédicace de son dernier livre « Que lentement passent les heures ». On le retrouvera la semaine prochaine, mais il est avec nous ce soir. Jacques Ivès, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous venez de publier un roman qui a pour titre « Que lentement passent les heures ». Alors c'est un vers d'un poème d'Apollinaire ?
Oui, c'est un poème d'Apollinaire. Enfin, c'est le début qu'il a écrit à la suite de son incarcération à la Santé. Il faut savoir qu'Apollinaire a passé 8 jours à la Santé, dans la prison, parce que on a pensé qu'il pouvait être mêlé à la disparition de la Joconde. La Joconde avait disparu pendant plusieurs mois, avait été volée au Louvre. Voilà. Et Apollinaire, qui avait des fréquentations parfois un peu douteuses, s'est retrouvé dans cette triste situation.
Aventure. Que lentement passent les heures. Est-ce qu'il s'agit d'une autobiographie, Jacques Ivès?
Non. Je dis non en hésitant un tout petit peu, parce que oui, on va y trouver quelques éléments d'autobiographie. Bon, il est question d'un libraire dans ce livre, même si c'est un libraire qui a cette faculté un peu particulière tout de même de voyager dans le passé, ce que je n'ai pas, hein, c'est tout de même un libraire. Donc on va y trouver, ben, tout simplement, par exemple, mes premiers pas en librairie, mon premier jour en librairie, pour moi c'était en 1978, ça commence à faire long, c'était chez Michou. Je ne cite pas le nom de la librairie dans le livre, mais on pourra la reconnaître.
Et donc, on redécouvre beaucoup de vous-même, parce que l'auteur met beaucoup de soi-même, mais de sa vie personnelle. On a quelques petits éléments qui permettent de vous retrouver, quand vous évoquiez le quartier du Chemin Vert, la caserne Jeanne d'Arc, les chars dans l'avenue de l'Isère. Bien, c'est vrai qu'il y a des petits éléments, mais l'essentiel du livre, c'est parce que vous voyagez dans le passé et dans l'histoire, mais que vous pouvez... nous faire découvrir Blaise Cendrars, de faire découvrir Apollinaire, on l'a vu, et puis peut-être aussi Jean Jaurès avec ce qui lui est arrivé en 1914.
Voilà, c'est un prétexte pour aller rencontrer les auteurs et les artistes de l'époque, des années 1910 à 1914, et je ne m'en suis pas privé, et donc je fais plusieurs voyages dans le temps. En fait, le thème, c'est « Je suis libraire ». J'ai ma librairie, ce qui n'a jamais été mon cas, là, justement, mais je suis libraire, j'ai ma librairie, mais ma librairie ne va pas forcément très bien, et mon idée, puisque je suis capable d'aller voyager dans le temps, c'est d'aller à la source, chercher sur le terrain, dans les librairies, les livres dont je sais que, 100 ans plus tard, ils vaudront une fortune, des éditions originales, et je pense notamment... à la prose du Transsibérien, qui est un livre extraordinaire. Peut-on appeler ça un livre? C'est un poème très long, magnifique, de Blaise Cendrars, qui a été présenté sous forme d'un dépliant de 2 mètres de long dans un coffret peint par Sonia Delaunay, dont il a été tiré une trentaine d'exemplaires et qui aujourd'hui coûte 250-300 000 euros.
Ça veut dire aussi que dans le roman, il n'y a pas Jacques Ivès 2023 qui raconterait sa vie, mais il y a l'âme d'un libraire qui redécouvre l'histoire, qui nous l'a fait partager, et un libraire qui a toujours eu, de toute façon, et ça c'est vous aussi, l'amour des livres, car vous avez toujours aimé les livres.
Oui, c'est vrai, depuis toujours, oui, oui. Je ne suis pourtant pas forcément un lecteur compulsif. Hein. J'avais des centaines de clients qui lisaient bien plus que moi, mais oui, je lis et je fréquente les librairies de Bordeaux. En plus, j'ai la chance à Bordeaux d'avoir une des plus grandes librairies de France, la librairie Mola, et qui est c'est une caserne d'Ali Baba, quoi.
Et vous avez été dans cette caserne d'Ali Baba, chez à la librairie Guerlain. Il faut rappeler aussi que le libraire, c'est quelqu'un qui est un confident aussi pour ses clients fidèles et qui vont lui parler des lectures, lui demander des choix, lui demander vraiment que choisir dans le livre, etc. Ça aussi, c'est important et c'est ce qui manque peut-être un peu aujourd'hui.
Je ne sais pas. Alors moi, oui, je peux quand même en parler, dans la mesure où, lorsque j'ai pris ma retraite, hein, puisque j'ai pris ma retraite et j'ai continué de lire, j'ai continué de fréquenter les librairies, mais je me suis rendu compte très vite que, surtout dans une grande librairie comme Mola à Bordeaux, on y était perdu. On n'avait pas de point de repère, alors que j'ai toujours été très à l'aise dans la librairie, connaissant tous les livres, tous les rayons. Et là, je me suis mis à la place des clients, effectivement, je devenais client. Et c'est une drôle d'impression que, lorsqu'on était libraire pendant 40 ans, d'entrer dans une librairie et de ne rien connaître des livres qui sont sur les tables.
Et vous avez toujours eu, mais vous avez eu, alors là c'est peut-être votre parcours personnel, un passé comme professeur des écoles, comme instituteur en formation de base, où vous avez appris le français, l'orthographe, le bien lire, le bien écrire. Et ça, c'est une formation de base. Mais pour vous, entrer chez Michaud, vous en parlez, entrer dans la première fois dans une librairie où vous étiez, entre guillemets, libraire, ça a été pour vous un coup de cœur et un choc.
Ah, c'était mon objectif, c'était mon rêve, être libraire. J'ai cherché pendant des mois et des mois autour de Reims, à Paris et même au-delà, un poste de libraire, d'apprenti, et que je ne trouvais pas. Et lorsque j'ai eu la chance, effectivement, de me voir proposer un poste chez Michaud, j'ai sauté de joie. Et effectivement, je suis entré pour le premier jour dans la librairie et je me suis dit, voilà, je suis libraire. Bon,
vous
ça n'a pas duré fier. Longtemps.
Hein. Vous étiez fier d'être libraire. Fier, hein?
Oui. J'ai toujours aimé ce métier. C'est pas un métier facile, loin de là. Ça n'a pas été non plus. C'est une carrière, hein, avec des hauts, des bas et des rencontres extraordinaires, comme avec Daniel et Anne-Marie Guerlain et d'autres rencontres beaucoup moins extraordinaires. Mais non, c'est un métier que j'ai adoré du début à la fin. Voilà.
Et on se souvient, on l'évoquera, puisqu'on aura l'occasion de nous retrouver lorsque vous reviendrez à Reims, parce que vous y revenez à Reims, puisque le 18 novembre, vous serez à la librairie Guerlain pour une dédicace l'après-midi de votre livre « Que lentement passent les heures ». Et vous y serez également le 27 novembre, ce sera à Joncherie-sur-Vel, à la médiathèque. On aura l'occasion d'en reparler, cette fois à 10h30. Vous allez retrouver la région là, Jacques Huès?
Oui, bon, d'ailleurs, j'y reviens de temps en temps. J'y ai ma famille, j'y ai mes frères et sœurs, et puis j'y ai surtout beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Donc,
on aura l'occasion de reparler sans regarder dans le rétroviseur de ses souvenirs. Moi, j'ai en mémoire toutes les conférences que vous aviez organisées, qui étaient à l'époque très très originales parce que ça n'existait pas, autour des livres, en poussant les rayons, et on avait des auteurs comme Jean d'Ormesson, Bernard-Henri Lévy, Amine Malouf, et j'en passe, et les meilleurs.
Oui, c'est vrai. C'était l'idée géniale de Daniel Guerlain. Personne ne faisait ça à l'époque, et il avait inauguré ce cycle-là qui a duré très longtemps et qui a fait toute la renommée de Guerlain. Bon, en plus de la compétence des libraires qui travaillaient chez Guerlain. Donc,
merci Jacques Huès. Que lentement passent les heures. On va aller à la rencontre de Sandra, d'Apollinaire, mais aussi de Jean Jaurès, mais aussi de l'histoire et de quelqu'un qui a toujours aimé les livres et qui veut nous faire partager la passion de lire. Voilà, c'était Jacques Huès qu'on aura le plaisir de retrouver, bien évidemment, la semaine prochaine chez Guerlain Martin. C'est le 18 novembre pour sa dédicace, c'est en après-midi, à Joncherie-sur-Vel, c'est à la médiathèque de Joncherie-sur-Vel. Le 27 novembre, on aura l'occasion de retrouver Jacques Huès, qui sera présent donc dans ce studio, en particulier sans doute avec Daniel et Anne-Marie Guerlain, qui ont été les libraires de cette fameuse librairie de la Place d'Erlon, dans laquelle a travaillé Jacques Huès pendant de très très nombreuses années. Et je sais que ça fera plaisir à un certain nombre d'auditeurs. À signaler dans notre agenda plusieurs rendez-vous pour la semaine prochaine. Lundi matin, nous recevrons un réalisateur de films, Jérôme Adam, qui va réaliser un film qui sera produit à Reims dans les prochains jours. Tout pour être heureux, mais il y a un point d'interrogation. Et puis nous retrouverons donc Marcel Bensivengo, qui est le maire d'Inchère, qui sera l'invité de Votre Maire nous parle. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de soirée, mais surtout un bon samedi, un bon dimanche, et on vous propose de nous retrouver la semaine prochaine dans le 18-19, 18h10, 19h, en direct pour un nouveau magazine régional. Bonne soirée, à bientôt.